qui voulait encore radicaliser plus le parcours du parti.
Alors Denis Kadima, vous vivez en Afrique du Sud depuis que vous êtes étudiant. Cette victoire était-elle prévisible ?
Écoutez, non, je ne suis pas étudiant. Je suis avec l'Institut électoral.
Non, je disais que vous viviez en Afrique du Sud depuis très longtemps, depuis même que vous étiez étudiant.
C'est vrai. Non, mais écoutez, là, on savait très bien que l'ANC était divisé. Et il est divisé au milieu, à telle enseigne que personne ne pouvait savoir qui allait gagner. Il y a des membres même de l'ANC qui n'ont pas voulu se prononcer, simplement parce que il y a beaucoup de pressions qui ont eu lieu. Et je pense que Zuma, en tant que ancien chef de service de renseignement de l'ANC et maintenant chef de l'État, détenait assez d'informations au sujet de tout le monde. Et on a vraiment l'impression qu'on a fait chanter des gens. Et ce qui fait que la décision, bien que Zuma n'était pas, enfin disons, la candidate de M. Zuma n'était pas la meilleure des candidats que les gens voulaient avoir, mais il y avait un petit chantage. Donc que Ramaphosa puisse gagner dans ces conditions-là, et d'ailleurs avec une très minime différence, c'était pas acquis au départ.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Monsieur André Thomas Chausson?
Bon, je ne veux pas être triomphaliste, mais moi j'avais prévenu le résultat depuis quelques semaines avant les élections, simplement parce que la candidate de la Mini Zuma était une personnalité introvertie, faible, même absolument pas sympathique, et surtout les jeunes, ils détestaient l'idée d'encore un vieux, d'encore un personnage vieux. Et voilà, on veut la nouvelle génération. Et Cyril Ramaphosa, même qu'il aille 65 ans, il a encore une image d'un personnage actif et plein d'optimisme.
Alors un personnage actif, vous dites, Ramaphosa promet de continuer la lutte contre la corruption. Pourra-t-il aller jusqu'au bout, selon vous ?
Au commencement, ça va pas être facile parce que les autres qui font partie de la gestion, de la nouvelle gestion de l'ANC, dont la majorité sont des amis de Zuma, le tout important Conseil national exécutif, qui a la même fonction comme un comité central dans un parti marxiste-léniniste, et en effet l'ANC est un parti qui vient de cette tradition, cette commission exécutif a 80 membres dans lesquels 45 sont des membres avec une affinité déclarée de Madame Dlamini Zuma. Alors il n'a pas la majorité vraiment dans le parti, mais il sait très bien faire la gestion des grandes entreprises, il sait comment convaincre les gens de le suivre, il sait aussi comment intimider ou discipliner ses ennemis. Il a la justice de son côté. La Cour suprême de la province de Gauteng a déjà déclaré que le président Zuma ne pourra pas nommer un nouvel procureur de la République, qui sera la personne qui va décider sur son avenir dans un cas, dans une accusation de plus de 700 cas de viol, de vol et de fraude. Et ça pourra devenir un encouragement très très fort pour Zuma se démissionner.
Denis Kadima, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Peut-il aller au bout contre la corruption ?
Bon, pour quelqu'un qui vit en Afrique du Sud comme moi-même, évidemment, je n'étais pas favorable à voir Nkosazana Zuma prendre les choses en main, parce que la capture de l'État, c'est une notion dont on parle beaucoup en Afrique du Sud, le taux de chômage, et même moi-même en tant que travailleur, le taux de taxes a augmenté même cette année, et cette taxe que vous payez en même temps que la corruption bat son plein. Mais j'essaie de vous donner des avis liés à la réalité sur le terrain. Donc, Nkosazana et Dlamini Zuma n'ont pas eu, en fait, la différence entre eux, c'était moins de 200 voix. Et d'ailleurs, si vous voyez l'organe les six membres qui ont été élus au niveau top du parti.
Justement, vous dites quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous semble que les postes sont bien répartis?
Oui, en fait, ils sont divisés 3-3. C'est-à-dire, certaines personnes qui étaient dans le camp de Ramaphosa n'ont pas été élus. Donc, il y a apparemment, disons, ce que je peux dire avec assurance, c'est que trois des personnes élues ne sont pas nécessairement alignées sur Ramaphosa. Ça signifie que ça, c'était une élection très serrée. Je suis impressionné par M. Thomas qui a pu, lui, au moins, projeter déjà la victoire. Mais je peux vous dire que les journaux, les opinions qui ont été, opinion polls, donc, n'ont pas du tout n'avaient pas cette certitude-là. Donc, c'est ça. Mais toutefois, il est vrai que Ramaphosa, sur le plan moral, sur le plan même sur le plan de sa nature, hein, c'est un grand négociateur. Et il négociait déjà au niveau du syndicat, mais au niveau même pour mettre fin à l'apartheid, c'était le négociateur en chef pour l'ANC. Et n'oublions pas que même la constitution de l'Afrique du Sud qu'ils ont maintenant, c'est lui qui a présidé à cet exercice-là. Donc, sur le plan, si on devait faire un choix simplement rationnel, évidemment, Ramaphosa serait le meilleur choix. Il n'y a même pas...
Alors, Ramaphosa serait le meilleur choix, vous dites. André Thomas Chaussen, est-ce que selon vous, comment vous voyez l'avenir des relations entre Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma? Quelle serait la meilleure stratégie pour une victoire de Ramaphosa en 2019 pour les prochaines élections?
J'ai aucun doute, Ramaphosa va suivre l'exemple du président chinois Xi Jinping, qui a aussi renforcé son autorité à travers la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption rendra aussi vulnérable ceux qui appuient encore Zuma, même au niveau de la gestion du parti, des six qui ont les charges essentiel du parti, parce qu'évidemment, ce sont aussi les têtes de la grande corruption ou de la capturation de l'État. Le dédommage pour l'Afrique du Sud est dans les environs des 20 000 millions d'euros. Alors, 20 milliards d'euros, c'est justement l'argent qu'on a besoin pour payer, par exemple, les étudiants pour pouvoir étudier à zéro frais. Et pour Ramaphosa, ce sera la clé pour un succès en 2019. Pour lui aussi, il s'agissera de convaincre les électeurs que son idée d'une espèce de Mexique, d'un pays de développement libéraux et basé sur le rationalisme et sur des théories d'économie moderne, est vraiment le meilleur choix. En contraste, l'idée de l'ANC de gauche est l'exemple de la Venezuela, les nationalisations, l'élargissement du secteur économique de l'État, l'élargissement des contrôles.
Alors, est-ce que vous pensez que la fracture peut s'estomper au sein du parti?
C'est pas à exclure. C'est bien possible. On en a bien parlé avant le congrès que si Ramaphosa perdrait le vote, il quittera le parti avec ses délégués pour établir un nouvel parti plutôt social-démocrate en Afrique du Sud. Ce n'est pas arrivé. Je pense que la faction de gauche dogmatique, acceptera la nouvelle réalité, parce qu'ils comprendront que hors de ce grand mouvement, ce sera très difficile de survivre à côté de l'opposition du centre, l'opposition de l'alternative démocratique.
Alors, je vous propose à présent de découvrir des réactions que nous avons eues sur la toile, car elles ont été nombreuses. Nous avons donc la chorale Sainte-Cécile de N'Djamena. Le combat est énorme pour Cyril Ramaphosa. Il faudra éradiquer la corruption, la xénophobie et la criminalité au cas où il serait élu président de la République. Mossé Firé, en Afrique du Sud, dit « Cyril Ramaphosa est le meilleur pour prendre la tête de l'ANC, mais il arrive tard, puisque Jacob Zuma a fait beaucoup de dégâts ». Alors, j'ai envie de vous demander, vous qui vivez en Afrique du Sud, Denis Kadima, est-ce que vous pensez que Cyril Ramaphosa peut changer la donne ?
Il n'a pas de choix. Il doit tout faire pour changer la donne. Sinon, pourquoi il serait là ? Mais ça sera une tâche effectivement difficile, étant donné que Zuma est resté quand même au pouvoir, il est encore au pouvoir. Au moment où il va partir, ça sera 10 ans. Et 10 ans de destruction, ce n'est pas facile. Et les problèmes auxquels le pays fait face, la pauvreté, le taux de chômage qui frôle les 30%, et toutes ces difficultés feront que il n'a pas de choix que d'essayer de bien faire. Mais nous pensons aussi en même temps que Zuma n'avait pas de vision pour le pays. On n'a pas vu vraiment une vision comme à l'époque de Mbeki. Mbeki savait très bien ce qu'il voulait. Et Zuma, on ne peut pas dire la même chose. Et moi, j'inscris un peu Ramaphosa sur le plan économique dans la lignée de Mbeki, une certaine rigueur. Il ne va pas chercher à trop... dépenser ce qu'il n'a pas. Donc il y aura un certain équilibre qu'il va essayer d'établir. Mais évidemment, le pays fait face aux grosses difficultés. Ça ne sera pas facile, mais au moins, il y va avec une idée claire. Ce n'est pas l'idée de s'enrichir, c'est l'idée de travailler pour le pays.
Alors, j'ai envie de vous poser une question à vous maintenant, André Thomas Chaussen. Est-ce que, selon vous, Cyril Ramaphosa garde les principes de son mentor Nelson Mandela ?
Il fera tout pour reprendre ces principes parce qu'ils sont essentiels pour maintenir l'unité de cette nation, de cette belle nation, pour récupérer la belle image de l'Afrique du Sud. C'était une image d'un pays qui n'était pas agressif, qui se basait sur la philosophie de l'inclusion des races et qui avait un grand rêve d'un avenir fort, d'un avenir qui pourrait aussi aider à tous les autres pays en Afrique. Et en contraste, ce que Zuma nous a produit, c'est la xénophobie, telle que mon collègue disait déjà, et elle est très sévère, elle est très grave en Afrique du Sud. Il y a régulièrement des atrocités commises contre les étrangers. Et c'est la pauvreté de masse. Il y a 17 millions il y a moitié de la population de l'Afrique du Sud qui survit sur la base des paiements mensuels d'appui social qui n'ont
pas
vraiment...
Je propose de poursuivre cette conversation juste après une courte pause.
Voilà.
Washington Forum consacré cette semaine à l'actualité sud-africaine. La nation arc-en-ciel traverse une crise économique sans précédent. Croissance stagnante, taux de chômage élevé, frilosité des investisseurs. Cyril Ramaphosa, qui devrait être vraisemblablement remplacé Jacob Zuma à la tête du pays en 2019, aura plusieurs défis à relever pour relancer l'économie. Abdourahmane Dia.
Pour l'ANC, les marchés ont réagi favorablement en Afrique du Sud. La bourse de Johannesburg et le rand, la monnaie locale, ont connu une hausse et un soulagement, aussi bien pour les citoyens ordinaires que pour les investisseurs.
J'espère que c'est un changement pour le meilleur, pour être honnête, surtout quand vous voyez le niveau du chômage. Je vis dans un township et vous savez que nous avons beaucoup de problèmes là-bas. Mais quand je vois le niveau du rand monter, je considère cela comme un signe positif. J'espère que Ramaphosa ça va changer des vies en Afrique du Sud.
Sa victoire est importante car nous avons quelqu'un de nouveau. Nous avons eu Jacob Zuma pendant 2 mandats et c'était les plus durs moments de l'histoire récente de l'Afrique du Sud.
Ce soulagement se justifie par le fait que le pays traverse une crise économique aiguë. Le taux de chômage est à plus de 27%, le pire depuis 2003. La dette publique devrait atteindre 61% du PIB d'ici 2022 si rien ne change. Le tout dans une inégalité criarde avec 93% des richesses entre les mains de seulement 10% de la population. Les scandales de corruption éclaboussant le président Zuma et ses proches, le limogeage de l'ex-ministre des Finances Pravin Gordhan, réputé proche des investisseurs, avait fini par saper la confiance des marchés, sans compter une baisse drastique des cours des matières premières, dont l'économie sud-africaine est fortement dépendante. Ramaphosa est un homme d'affaires qui comprend parfaitement les défis qui l'attendent. Cependant, il devra aussi composer avec ses compagnons de lutte de l'ANC. Et pour beaucoup, le problème pourrait bien être à ce niveau.
Avant de reprendre notre discussion, je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Denis Kadima, directeur de l'Institut électoral de l'Afrique du Sud à Johannesburg, André Thomas Chausson, professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA. Alors, je reviens vers vous, Monsieur André Thomas Chausson, est-il capable de donner confiance aux consommateurs ?
Bon, tout pour commencer, il doit donner confiance aux grandes banques internationales parce que dans le mois de janvier et février, il y aura un volume très important de bandes qui seront payables et l'Afrique du Sud n'a pas l'argent pour les payer. Alors nous risquons un défaut complet qui nous donnerait un arrêt pratiquement de l'économie. Il faut trouver à peu près 3 milliards de dollars pour refinancer ses empreintes de long terme. Il a déjà déclaré qu'il n'approchera pas le Fonds international monétaire et qu'il cherchera le refinancement auprès de la Chine et des autres associés dans l'alliance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine. Cela sera son premier grand défi. Pour les consommateurs, j'espère qu'il y aura un peu d'espoir parce que la monnaie vient de se renforcer. Le taux d'échange est beaucoup plus favorable qu'il était, c'est-à-dire que les importations arriveront dans notre marché à un prix plus accessible.
Alors, il vient tout juste de nous rejoindre, Jean-Baptiste Placa, journaliste spécialiste de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que la nation arc-en-ciel va enfin prendre son sens avec cette nouvelle élection ?
Je ne pense pas que ce soit là l'événement qui déterminera la dimension arc-en-ciel de cette république. La vérité est que l'étoile sud-africaine était en train de pâlir sous le leadership de Zuma. On espère, tous espèrent que à présent ça va briller à nouveau et voilà, et que ces gens sauront être à la hauteur de l'héritage de Nelson Mandela.
Peut-il gagner, selon vous, la majorité au sein du parti ?
J'ai pas compris la question.
Peut-il, selon vous, gagner la majorité au sein du parti ?
Écoutez, l'ANC est d'abord dirigée par un président. Et ce président, c'est lui qui détermine la marche de la nation. Donc, lui-même, Ramaphosa était vice-président et suffisamment, démuni ou sans pouvoir réel au point que Jacob Zuma a cru devoir lui opposer son ex-épouse. Donc aujourd'hui, il est président. Je pense que les uns et les autres seront bien obligés de se mettre derrière lui.
Alors être derrière lui, mais il a beaucoup parlé d'unité du parti malgré la facture. Vous y croyez ?
Oui, je pense qu'il est sincère quand il dit cela. Oui, il ne faut pas oublier que Ramaphosa faisait partie de... Et d'ailleurs, c'est une autre génération de leaders, c'est ceux qui étaient sur le terrain face au régime d'apartheid durant les dernières années. Et en tant que leader syndical, il a traité avec le pouvoir blanc
de manière soutenue. Et l'ANC agissait, mais la COSATU aussi agissait et pesait d'un poids certain. Donc je pense qu'il peut rassembler. Les gens seront bien obligés d'accepter son leadership, d'autant plus que d'ordinaire, le président facilite les choses pour son vice-président, et ça n'a pas été le cas. Et en dépit de cela, il a quand même gagné. Donc c'est la preuve que il aura forcément, disons, un certain impact sur la vie du mouvement.
André Thomashausen, est-ce que vous êtes du même avis?
En principe, oui. Encore une fois, l'exemple de la Chine, la lutte contre la corruption va exploiter la vulnérabilité, la culpabilité des autres cadres de l'ANC. Et la plupart des ennemis de Cyril Ramaphosa sont des gens culpables. Alors, ils vont bien s'arranger avec lui, ils vont préférer de s'arranger avec lui que de voir des ennuis avec les tribunaux et possiblement des peines en prison. Ramaphosa est assez rusé et il est un très bon tacticien, un très bon négociateur. C'est surtout lui, comme chef des syndicats, qui a vraiment cassé la force, cassé l'autorité du régime apartheid. Alors il a une certaine expérience de faire la gestion des gens qui l'opposent. Évidemment, il y a un degré d'optimisme dans ce que je dis, mais c'est ce que l'Afrique du Sud a besoin. Il faut absolument reprendre un peu l'autorité de l'État. C'était dans les derniers 4 ou 5 ans l'anarchie économique, l'anarchie où il n'y avait plus de prudence dans la gestion des fonds publics. Et un abus qui était absolument éclatant, qui pourra coûter l'ANC la majorité dans les élections à la fin de 2019 s'il n'y a pas un virement, s'il n'y a pas une politique visiblement.
Alors, je vous place ça. Est-ce que vous pensez que Cyril Ramaphosa peut relancer l'économie?
Il faut absolument.
Oui, s'il la relance d'abord. Pas,
je vous écoute, Jean-Claude.
Oui, allez-y. Il faut absolument qu'il la relance. S'il ne le fera pas, la crédibilité, le crédit international de l'Afrique du Sud.
C'était Jean-Claude Plassin qui était interrogé. Jean-Claude, vous nous entendez?
Jean-Baptiste Placard.
Jean-Baptiste, excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'on peut relancer cette économie?
Oui, non, mais. Oui, absolument. Il peut la relancer, d'autant plus que le syndicaliste. Quand il n'a pas eu ce qu'il espérait sur le plan du leadership de l'ANC, était parti faire des affaires et il est revenu un peu à l'américaine comme quelqu'un qui a su faire fortune dans le secteur privé. Donc il connaît l'économie et je pense qu'il est... Zuma a fait sombrer le pays par son amour de l'argent, mais il a voulu gagner de l'argent sur le dos de l'État, alors que Ramaphosa, lui, est allé gagner de l'argent hors de l'État et revient maintenant pour mettre sa puissance au service de l'État.
Ainsi donc, c'est une rupture.
Je pense qu'il a... Oui, oui, absolument. Et il a beaucoup plus de possibilités.
Ça sera donc le dernier mot. Et ainsi s'achève cette émission. Merci à tous nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à B1 TV qui diffuse Washington Forum à Kinshasa en République démocratique du Congo. Excellente fête à vous et bonne suite de programme.
Sur FM en cours, la Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.